On apprend des choses sur William ce matin, hein? Ben, je savais pas ça. Un ancien militaire. Wow! Ce matin, on continue dans la série sur la vie de David. Puis, je vais peut-être vous apprendre des choses sur moi aussi, là. Pourquoi? OK. Ouais. Ouais, moi, c'est moi, ça. pendant des années, j'avais tendance à m'endormir beaucoup au volant. Et oui, à cause de la fatigue chronique. C'est beaucoup mieux maintenant. Je remercie Seigneur. Mais des fois, je jouais des petits tours à Lorraine aussi, là. Une fois, entre autres, là, j'ai dit, je vais fermer juste un œil du côté droit, là. Je vais garder l'autre ouvert, puis je vais commencer à faire semblant de taper des clous. Puis, quand tu tapes des clous, là, il y a une technique à ça. Il faut y aller tranquillement, puis là, tu fais comme ça, là. Puis là, elle paniquait, mais Brian! Là, elle m'a pas frappé pour me réveiller, mais quand elle a vu que c'était une farce, c'est là qu'elle m'a frappé. Mais c'est parce que David dit dans le psaume 141:5, il dit « Si le juste me frappe, c'est une faveur. S'il me corrige, c'est l'huile sur ma tête. » On a vu dans les dernières semaines, ensemble, ça fait plusieurs semaines qu'on parle sur la chute de David, son aveuglement spirituel, sa repentance envers Dieu. Et puis, on a vu d'abord que David se laisse reprendre. Il aurait pu s'emporter de rage contre Nathan, là, quand Nathan dit « C'est toi l'homme ». Non, il se laisse reprendre. Et c'est comme si quelqu'un est au volant, puis il s'endort, puis s'en va droit vers une falaise. Hein? Ben, si quelqu'un lui donne une tape, puis il se réveille, il va dire quoi? Merci. Puis c'est la première chose qu'on a vue avec David. Et sachant que tu es aveugle comme moi, que nous sommes aveugles, est-ce qu'on accepte de se faire corriger? Est-ce qu'on accepte lorsqu'un ami ou ton époux, ton épouse, un frère, une sœur, un pasteur, peu importe, essaie de te parler à propos d'une attitude, d'une parole, d'un comportement qui ne correspond pas au caractère de Jésus? Comment tu réagis? Le vois-tu comme une bénédiction? David il dit, c'est comme l'huile sur ma tête, ça veut dire une bénédiction. Si le juste me frappe, c'est une bénédiction. Fait que David, on a vu que David reconnaît son péché dans la... pourquoi ça ne veut pas avancer? Ah, OK, il y a un lag. David, premièrement, il reconnaît son péché. Il se laisse reprendre, puis il reconnaît son péché. Ensuite, il recherche le pardon de Dieu basé non sur le fait qu'il soit un bon gars. Hein, Seigneur, dans le fond, là, je suis un bon gars. Hein? Pardonne-moi parce que je suis un bon... Non. Et il se jette sur la bonté de Dieu. Il se jette sur la miséricorde de Dieu. Il dit, le péché est attaché à moi depuis ma naissance. Et je le reconnais, Seigneur. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur puis qui me tâche. Moi, dans le fond, je suis une bonne personne, mais des fois, là, hein, on fait tous des erreurs. Puis regarde, non. David, il dit, dès ma naissance... j'étais entaché de péché, puisque la Bible dit que la nature pécheresse a été transmise. Et puis, on n'a pas besoin d'enseigner un enfant à mentir, hein, pas vrai? Pourquoi? Parce que ça sort de sa nature. C'est normal. On n'a pas besoin d'y montrer de frapper sa sœur. Hein? On n'a pas besoin d'y montrer de frapper son mari quand il joue des tours. Non, c'est des farces. Alors... David recherche le pardon de Dieu basé non sur sa bonté, mais sur la miséricorde et la bonté de Dieu qui a pourvu un sacrifice pour y transférer sa culpabilité. Et on a vu aussi le désir de David, le fort désir de revenir à Dieu de tout son cœur. Hein? Et on a vu que Dieu aussi, il veut ça. Et quand on pêche, parce qu'on pêche tous, et des fois, on pêche de façon qu'on dit, « Mais voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait là? » Hein? Tu ris, hein? OK, ça me soulage. Je suis pas le seul. Qu'est-ce qui m'est rentré dans la tête? Puis on a honte. Puis on ne veut pas retourner à Dieu. Là, on est piteux. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? C'est de retourner à Dieu. C'est de revenir à Dieu. Qu'est-ce qui motive David à revenir à Dieu? Il sait que Dieu, c'est la seule source de vie et de joie. Il est motivé par la joie de retrouver son berger. Hein? Il réalise, après presque un an, là, qu'il lui manquait quelque chose. En fait, qu'il lui manquait quelqu'un. Et on peut vivre notre vie pendant très longtemps en se... un peu en se leurrant, un peu en se racontant des histoires. Mais, comme on a dit, l'être humain, il y a une profonde nostalgie dans le cœur de l'être humain pour quelque chose peut-être qu'il n'a jamais connu. Si tu n'as jamais connu Dieu, là, cette nostalgie-là t'habite. C'est-à-dire que tu soupires après quelque chose que tu n'as jamais connu, mais tu sais que ça te manque. Mais David, lui, l'avait connu. Puis en ayant connu ça, il veut revenir. Il veut revenir à cette relation avec Dieu. Et on a vu que Dieu aussi, qu'est-ce qui habite le cœur de Dieu? C'est-tu du mépris? Voyons donc, regarde ce que tu as fait encore, là. Non. C'est la joie. Dieu nous attend les bras ouverts. Hein, les trois paraboles que Jésus compte dans Luc 15, la brebis perdue, la pièce de monnaie perdue et le fils perdu. Et Jésus dit, quoi à propos de ces choses-là? Il y a plus de joie. Hein? Il y a plus de joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Qu'est-ce que ça veut dire, se repent? Changer de direction. Revenir à Dieu. Revenir. Donc, David revient à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on est. On est rendu là. On passe beaucoup de temps là. Je me rends compte là que le psaume 51, c'est profond. C'est vraiment profond. Puis ça vaut la peine d'étudier. Donc ce matin, on va regarder, si le temps permet, restaurer la relation et réparer. Donc premièrement, ça on l'a vu. Et c'est la joie au ciel quand il y a un pécheur qui se repent. C'est bien, là.
C'est le froid.
C'est le froid. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, tournez avec moi dans psaume 51. On va lire le psaume 51. Au chef des chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, où le péché est attaché à moi depuis ma conception. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hyssope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais fait, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Prions. Oui, Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est tellement profonde, elle est tellement remplie de lumière, de vérité. On te demande, Seigneur, ce matin, de nous donner par ton esprit sagesse et révélation pour te connaître. Saint-Esprit, viens éclairer nos cœurs. Révèle-nous la pensée intime du Père. Fais descendre ton évangile dans nos cœurs, Père, pour la gloire de Jésus. Amen. Peut-être juste baisser le son un petit peu, s'il te plaît. Merci. Donc, restaurer la relation. On a vu que quelqu'un a dit un jour que la perspective d'une relation restaurée est le puissant moteur de la réconciliation. La perspective de relation restaurée. Puis on avait commencé à regarder l'idée que David veut restaurer sa relation et rétablir une relation saine avec lui. Qu'est-ce que ça signifie, avoir une relation saine? Eh bien, il dit au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle ou fais naître en moi un esprit bien disposé. » Il demande à Dieu de renouveler en lui cette disposition de cœur qui cherche... Qu'est-ce qu'un cœur bien disposé cherche? Cherche Dieu et cherche sa volonté. Cherche ce que le cœur de Dieu veut. Donc, il se met en ligne avec Dieu, non? Pas vrai? Et un esprit bien disposé, le terme bien disposé peut être traduit aussi constant ou ferme, c'est-à-dire qui est attaché à faire ce qui est bien et qui refuse le mal. Un esprit ferme, un esprit constant, déterminé à suivre Dieu et à rejeter les tentations. Donc, restaurer la relation passe par un cœur et un esprit qui sont alignés avec Dieu. Hein? Christocentrique. Restaurer la relation, c'est de marcher selon l'esprit, laisser l'esprit conduire ta vie, comme on a vu il y a deux semaines. Marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La vie chrétienne, c'est ça. Et l'importance, la séquence est importante. C'est pas, essaye de pas faire le mal, puis tu marcheras par l'esprit, non. Marche par l'esprit, laisse l'esprit te contrôler, laisse le contrôle à Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire vivre la vie de Christ et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Parce que tu vas être rempli de l'esprit. Et souvent, en tant que chrétien, on essaie de faire le contraire. J'ai essayé, ça marche pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ça lague. Mais bon, il demande au verset 13, si vous suivez, j'espère que vous suivez dans votre Bible ou sur votre tablette ou votre téléphone. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. » Vous vous rappelez que Dieu avait fait ça avec Saül, hein? Dieu a retiré son esprit. Là, David dit, « Dieu, fais pas ça, là. Fais pas ça pour moi, là. » Maintenant, l'Esprit est venu sur David tout de suite à son onction. On voit ça dans 1 Samuel 16. On a vu ça. Samuel, oint d'huile. Et l'huile dans la Bible signifie, ça représente l'Esprit. Donc l'Esprit vient sur David à partir de son onction. On ne lit pas que l'Esprit l'a quitté, là. On ne lit pas que l'Esprit l'a quitté, même pendant l'année, ou à peu près l'année, là, où ce qui était dans le péché, puis il ne s'est pas repenti, là. C'est pas marqué que Dieu a enlevé son esprit. Puis assurément que l'esprit était attristé et contrôlait pas les pensées et les actions de David, mais c'est l'esprit qui agit pour le convaincre de péché. Hein? Jésus a dit, quand je vais envoyer mon esprit, il va convaincre de péché. La conviction, qu'est-ce que c'est la conviction du péché? C'est que tu réalises, Pas que, ah ouais, ben tout le monde est pécheur, comme moi, c'est ça, tout le monde fait des erreurs, il n'y a personne de parfait. Non, non, c'est moi, j'ai péché, là. Je suis pécheur devant Dieu, puis si je me ramasse devant Dieu au jugement, là, je suis fait à l'os. Ça, c'est la conviction du péché. Ça, c'est dire, parce que j'avais de la haine dans mon cœur pour mon frère, là, je suis meurtrier. Ça, c'est la conviction du péché. Un jour, ça m'a frappé, comme une tonne de briques. Je voyais mon frère comme le méchant. Et le Saint-Esprit m'a montré, j'étais méchant aussi, parce que je voulais le tuer. J'avais ça dans mon cœur. Maintenant, je ne peux pas adresser la question ce matin, à savoir si un enfant de Dieu peut perdre l'esprit, peut perdre son salut. OK, j'aimerais vous implorer votre patience, votre indulgence. On va adresser ça à un autre moment donné, puis de ne pas partir de débat là-dessus, s'il vous plaît, les frères et sœurs. Mais je veux simplement vous dire que là, on est dans l'Ancien Testament, OK, sous l'Ancienne Alliance. Le Saint-Esprit n'était pas descendu encore sur tout le peuple de Dieu, il n'était pas venu habiter les cœurs des enfants de Dieu comme un temple. C'est différent dans l'Ancien Testament, OK? Donc, on ne peut pas sauter à des conclusions, mais ce que David dit ici, c'est vrai, par exemple. Pour lui, c'est vrai, parce que Dieu aurait pu retirer son esprit comme il a fait avec Saül. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas le moment et le temps de regarder cette question-là. Mais déjà, la conviction du péché, cette prise de conscience, cela venait du Saint-Esprit. Et David est bien conscient que s'il veut restaurer la relation avec Dieu, ça passe par... Ça passe par... Et? On vient de parler de qui, là? Le Saint-Esprit! Ça passe par le Saint-Esprit. Il ne peut pas être en communion avec Dieu sans le Saint-Esprit. Si Dieu retire son esprit, là, c'est fini. OK? Et ça, c'est un point important pour nous parce que c'est aussi vrai pour nous. Tu ne peux pas être en relation avec Dieu sans avoir son esprit. Et tu l'as comment maintenant? À partir du moment où ce que Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il parlait du... Saint-Esprit que devaient recevoir tous ceux qui croiraient en lui. Donc, tu ne viens pas au monde avec l'Esprit. Et tu ne le reçois pas lors d'un baptême d'enfant, là, quelques gouttes d'eau sur la tête. Parce que Jésus dit, il faut que tu crois en moi pour recevoir le Saint-Esprit. OK? Tu ne peux pas être en relation sans le Saint-Esprit. Et naître de nouveau... C'est par l'Esprit, c'est naître de l'Esprit. Donc, tu ne peux pas être un chrétien, un vrai, un enfant de Dieu sans avoir l'Esprit. Impossible. Et c'est impossible de communier avec Dieu sans l'Esprit. Un des éléments qui caractérise la vie dans l'Esprit, c'est l'adoration. En esprit et en vérité. Et David, c'est-à-dire, c'est ça depuis le début, on voit... David, c'est un adorateur de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu. Toutes les psaumes qu'il écrit, c'est inspiré de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est inspiré de l'Esprit de Dieu. David désire le retrouver son identité, son rôle d'adorateur. Pendant un an, là, je suis certain que c'était silence radio entre lui et Dieu. Pendant un an, là, à partir du moment qu'il a tout fait ces cochonneries, là, puis que jusqu'à temps que Nathan vienne le voir, là, pendant un an, je suis certain, il n'y a aucun psaume qui est sorti de là. Pourquoi? Parce que l'adoration, ça vient d'un cœur qui déborde, ça vient de l'esprit, ça coule. Et David sait, il sait, il vient de rendre compte, hey, j'ai perdu mon rôle, mon identité d'adorateur. Je veux retrouver ça. Pourquoi je dis ça? Regardez au verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et quoi? Ma langue célébrera ta miséricorde. Wow! Ma langue célébrera. Seigneur, verset 17, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Il ne peut y arriver que si Dieu le libère, si Dieu le délivre du poids de sa culpabilité d'avoir versé du sang. Délivre-moi du sang versé. Dieu dit dans Ésaïe 57, il dit ceci. Lui, il ne parle pas nécessairement de David, hein, mais de quelqu'un qui parle de lui. Il parle d'Israël, en fait, mais ça s'applique à tous. Lui, rebelle, il a suivi la voie où l'inclinait son cœur. La voie où inclinait son cœur. J'ai bien vu sa conduite, mais je le guérirai, je le conduirai, je le consolerai, lui et ses affligés. Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louange. Wow! Donc, la restauration, là, Ésaïe 57, 17 à 20. La restauration de la relation, là, c'est pas arrivé tant que tu n'arrives pas à louer Dieu. Tu n'arrives pas à adorer Dieu. Et, hein? Puis souvent, on a des périodes où on dirait que il n'y a rien qui sort. Hein? On est comme, il n'y a rien. Puis la question à se poser, c'est, comment est ta relation avec Dieu? C'est quoi qui bloque? C'est quoi qui s'est passé? Alors, David veut restaurer, Dieu veut aussi restaurer David dans son identité d'adorateur. Il veut remettre sur ses lèvres des hymnes de louange. Et écoutez, n'oubliez pas ce que David a fait là. Mais le point ici, c'est que si Dieu peut le faire avec un meurtrier, un adultère, un scandaleux, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Et il veut le faire pour toi. David reconnaît que ce que Dieu désire voir dans son cœur. On a dit, renouvelle en moi un cœur... donne-moi un cœur nouveau. Qu'est-ce qui est agréable quand Dieu regarde son cœur et dit, c'est un cœur contrit? Regardez au verset 18. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais fait. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Pourtant, c'est Dieu qui a institué les holocaustes. C'est Dieu qui a dit, ben faites-moi des sacrifices comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si vous voulez voir, allez lire Lévitique, là, vous allez voir. C'est prescrit. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, David, ici, dans le fond? Ça ne donne rien de passer à des actions, là, des choses extérieures, des rites, puis tout ça, puis le cœur n'est pas dedans. Hein? Le cœur n'est pas là. Qu'est-ce que Dieu regarde? Il regarde au cœur. Puis Dieu, il veut voir quoi? Un esprit humble, un cœur brisé, un cœur contrit. Parce que c'est à la base de l'adoration. À la base de l'adoration, c'est ça. Un cœur humble, un cœur qui reconnaît qui est Dieu vraiment. Donc, David veut rétablir la relation, mais Dieu le désire tout autant, sinon plus. C'est comme on a vu l'autre jour, c'est pas comme, OK, David, tu reviens à moi, là, assieds-toi là, puis reste tranquille. OK, je t'accepte, là. Je reviens, c'est correct, je suis content, mais reste là. Assieds-toi là, puis reste tranquille. Non, il veut rétablir la relation. Il veut aller plus loin, il veut rétablir la relation. Et Dieu veut tellement rétablir la relation avec chacun de ses créatures que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus pour prendre tes péchés. Prendre mes péchés, pourquoi? Dans le but de... rétablir la relation. Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Wow! À quel point Dieu désire rétablir la relation entre toi et lui, là? Il a envoyé Jésus mourir, souffrir à la croix pour toi. C'est à ce point-là. Il a donné ce qu'il avait de plus beau, de plus précieux. Et non seulement Dieu est prêt à pardonner, mais il veut t'avoir avec lui. Il veut te donner sa vie. Il veut être en relation avec toi. C'est ça l'Évangile. Je vais essayer une autre façon. OK. C'est pas quelque chose que j'ai dit, ils m'ont averti qu'il allait partir. Je disais dernièrement quelque chose de très intéressant. Il dit, Dallas Willard, un théologien, il dit, il y a trois comme étapes à une relation. Il y a la communication. Hein, on peut être en communication, on peut se parler. C'est déjà bon. Après ça, vient la communion. Ça veut dire qu'on a des intérêts ensemble. On partage des choses en commun. Hein? Des intérêts, des amours, des choses en commun. On a des choses en commun, fait qu'on peut être en communion. Et après vient l'union. Comme dans le mariage, les deux deviennent un. Les deux deviennent un. Là, c'est pas juste des intérêts communs, c'est l'unité des personnes. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut vivre avec toi. Et souvent, en tant que chrétien, on reste malheureusement à l'étape... Comment ça fait que ça ne projette pas ça? On reste souvent à l'étape de communication, ou peut-être de communion. Mais Dieu veut, il veut mon cœur. Il veut être un avec moi. Et c'est ce que David dit ici. Il veut que Dieu renouvelle en lui un esprit bien disposé, qu'il crée en lui un cœur nouveau, un cœur qui soupire, hein, comme avant, un cœur qui soupire après les courants d'eau comme une biche. Puis ça, c'est l'Évangile. Vous savez, l'Évangile, il y a deux façons de voir ça. L'Évangile ou la Bible. Mais l'Évangile, il y en a qui voient ça comme un conseil, un bon conseil. Suis ça, mets ça en pratique, puis tu vas avoir une meilleure vie où tu vas avoir l'approbation de Dieu, tu vas être un bon chrétien, suis ça, puis tu vas être correct, tu vas être correct là, tu sais. L'Évangile n'est pas un bon conseil. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Un bon conseil te dit quoi faire. Une bonne nouvelle te dit ce qui a été fait. Vous voyez la différence? C'est bon, hein? J'écoutais ça, Tim Keller, un pasteur, maintenant il est décédé, dernièrement. Un bon conseil te dit quoi faire. Une bonne nouvelle t'annonce ce qui est déjà fait. Exemple, un bon conseil va dire, fais ceci ou cela, tu arriveras à être une meilleure personne. Et à obtenir l'approbation de Dieu et ses bénédictions. Ça va bien aller pour toi. Non. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. La nouvelle t'informe. T'écoutes les nouvelles pour savoir ce qui se passe ou ce qui est arrivé. Et l'Évangile t'informe. Il y a quelque chose de vraiment énorme qui est arrivé à Jérusalem il y a 2000 ans. C'est quoi la chose? Jésus a accompli sur la croix le paiement de tous tes péchés. Il est mort pour toi. Et puis 3 jours plus tard, il est ressuscité. Maintenant, si tu places ta foi en lui, et si tu l'accueilles comme Seigneur et Sauveur, Dieu te déclare juste et il te donne son esprit. La bonne nouvelle t'annonce ce qui est accompli et tu dois placer ta foi dans la bonne nouvelle. Il y a beaucoup, beaucoup de religions. En fait, toutes les religions, c'est du bon conseil. Et oui, il y a des bonnes choses pour vivre une meilleure vie. Si tu appliques ces choses-là, tu peux avoir une meilleure vie. Mais l'Évangile de Jésus-Christ, c'est la seule qui est une bonne nouvelle. Amen. C'est totalement différent. C'est pas « fais ces choses-ci, puis tu atteindras éventuellement un niveau de spiritualité que Dieu va dire « ouais, c'est pas pire, ça, ok, rentre ». Non, ça n'arrivera pas. Tous sont perdus. Tous ont péché, tous méritent le jugement juste de Dieu, c'est marqué. Alors la bonne nouvelle, c'est complètement différent. Jésus a tout fait pour toi. Viens, repens-toi, crois en lui et tu auras la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Je ne demande pas de répondre, c'est une question à réflexion. Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas surprenant. Que tu n'as pas la joie, tu n'as pas l'adoration envers un Dieu qui te connaît que tu connais personnellement. Tu vois les autres qui ont ça, puis tu dis, il doit manquer quelque chose. Malheureusement, souvent, il y a des chrétiens qui viennent à Christ, c'est la bonne nouvelle, mais après ça, ils continuent avec bon conseil. Donc, tu commences avec la bonne nouvelle, mais tu continues dans le bon conseil. Je l'explique. Par exemple, David. On va prêcher, David a fait ci, David a fait ça, David a fait ci. Va, fais la même chose. Ah, OK, c'est un bon conseil, ça, ouais. C'est un bon conseil. Fait que là, t'essayes de faire ça. T'essayes de faire ça. T'essayes d'être un bon chrétien. Certains réussissent, certains pas. Certains réussissent plus que d'autres. Sur ceux-là qui réussissent bien, qu'est-ce qui se passe? L'orgueil. Ceux-là qui réussissent pas ou qui pensent qu'ils réussissent pas, c'est quoi qui arrive? On a vu ça avec le moraliste. C'est du moraliste. C'est le découragement. Paul dit aux Galates, il dit, comment ça se fait? Vous avez commencé dans l'esprit et maintenant vous voulez continuer avec la loi? Avez-vous été sauf? Est-ce que... Il ne comprend pas. Mais malheureusement, frères et sœurs, là, c'est souvent ça qu'on fait. L'Évangile n'est pas un bon conseil, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est toujours bonne pour chaque jour de notre vie, à partir de notre conversion jusqu'à la mort ou au retour du Seigneur. C'est une bonne nouvelle. J'ai encore besoin de la bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai encore besoin de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle me dit que je suis accueilli à cause de ce que Jésus a fait, pas à cause de ce que je fais. Je suis aimé, je suis un enfant de Dieu à cause de ce qui a été accompli. La bonne nouvelle me dit, c'est accompli. C'est accompli. As-tu accueilli cette information qui t'indique la seule façon pour être pardonné et réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu l'as accueilli, la bonne nouvelle? Ou tu as pris la Bible comme un bon conseil pour t'aider à vivre une meilleure vie et à devenir une meilleure version de toi-même? Ça, c'est un mensonge. Ça paraît bien. Ça paraît bien. Mais c'est un mensonge. Jésus est venu mourir pour qui? Les bonnes personnes? Non. Il dit, je suis venu pour mourir pour les pécheurs, pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Ce matin, Dieu t'appelle à lui. Dieu veut que tu viennes au pied de la croix de Jésus pour recevoir humblement de lui la vie. Le veux-tu? Laisse pas ton orgueil t'empêcher. Ou peut-être tu es une personne qui l'a accueilli vraiment, mais ce matin tu ressens ce besoin en ce moment de rétablir la relation saine dont tu jouissais autrefois avec Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle aussi à lui. Peut-être ce matin tu rends compte que tu n'es pas en train de vivre vraiment une vie centrée sur Christ. Que tu as perdu cette joie de louer, d'adorer Dieu. Tu n'es plus centré sur Jésus. Tu es plutôt tiède, désengagé. Tu ne sers plus dans l'Église. Comme David, tu te rends compte que pendant tout ce temps-là, j'ai été comme aveugle. J'ai été loin de Dieu. Et ce matin, Dieu t'appelle. Il t'appelle. Reviens. Reviens. Reviens, retrouve ta joie, retrouve l'adoration, retrouve la communion et l'union avec moi. Dieu t'attend à bras ouverts. Alors, David veut restaurer la relation. Et je pense que on va s'arrêter là pour l'instant, puis je reviendrai pour le reste. On va prendre un moment pour le repas du Seigneur. Tu avais un chant, je pense, hein, William? Est-ce que tu peux mettre le chant Coffee, s'il vous plaît?